Nous étions arrêtés au verset 11 de ce chapitre. Nous reprenons la lecture au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Nous sommes ici dans une nouvelle intercession de Moïse. C'est la troisième intercession, la troisième. Moïse, vraiment là, tient un langage magnifique, extraordinaire. Il faut dire que tous ces passages, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme je le ressens, mais tous ces passages nous montrent d'une façon absolument éclatante que comment un homme peut véritablement se donner tout entier pour servir Dieu, et on peut dire sortir en quelque sorte de l'homme naturel. Voilà un Moïse qui sort, on sent que l'homme naturel est éloigné. Il n'est plus l'homme naturel. Il est vraiment là déjà un type. C'est la figure, vraiment la figure très marquée du Christ. Il approche du Christ, bien sûr. Personne ne peut remplacer le Christ, c'est pas ça qu'il faut penser, bien sûr. Mais il approche véritablement. Et pour nous, c'est une leçon majeure. Nous sommes après la venue du Christ. Lui, il était avant. Nous sommes après. Et déjà avant, il pouvait approcher du Christ, approcher d'une ressemblance au Christ dans sa mission. Et nous, après, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous approchions du Christ. Nous soyons nous aussi des figures, mais des figures d'après sa venue, c'est-à-dire ressemblant à lui, ayant en nous les sentiments qui étaient en lui. Une intercession magnifique, et nous allons voir que l'Éternel exauce, l'Éternel, on pourrait presque dire, cède à Moïse. Moïse demande quelque chose, le Seigneur lui donne. Alors que Dieu commence par dire, prononcer le verdict de sa justice, mais Moïse intercède, et Dieu change. Volontairement, bien sûr, Dieu attend cela, Dieu attend un médiateur, un intercesseur, il attend des témoins maintenant, les témoins du grand médiateur. Dieu avait précédemment promis d'accompagner son peuple, cela au chapitre 23 du livre de l'Exode. Et maintenant, Moïse peut dire, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi, puisque l'Éternel, là, a déclaré qu'il n'irait plus et qu'il enverrait un ange. Un ange non désigné. L'Éternel n'a pas désigné son ange. Un ange, il y en a tellement des anges. Un ange non désigné va remplacer l'ange de l'Éternel. Et cela, Moïse y est à cela très sensible. Particulièrement sensible. C'est un coup pour lui. Il sent bien que c'est une rupture, que c'est une séparation. Et il se voit comme atteint lui-même par cet épouvantable changement consécutif à l'affaire du veau d'or. Cependant, dira Moïse, tu m'as dit, je te connais par ton nom. Connaître par le nom, c'est connaître en ami, comme Jésus l'a déclaré dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. C'est là connaître. Connaître, vous savez, le sens, je le rappelle toujours, le sens biblique, c'est connaître intimement, c'est-à-dire être dans un lien, dans une union. Je te connais par ton nom, avait dit le Seigneur à Moïse. Connaître par le nom, c'est connaître en ami avec l'intimité d'un lien d'affection. Et effectivement, au début de l'Exode, lorsque l'Éternel vient pour parler à Moïse et lui intimer sa mission, la mission qu'il aura à accomplir, le Seigneur l'appelle par son nom. Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ça, c'est encore ce qui est resté dans le cœur de Moïse. Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tout dans les paroles de Dieu à Moïse le montrait. Trouver grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Une grande chose, une grande chose, cher ami. Nous devrions être ceux, nous, qui avons trouvé grâce et qui restons dans cet état de grâce. Trouver grâce, c'est apparaître, déchargé de toute souillure, bien sûr, de tout péché, de toute responsabilité, responsabilité venant du péché, et pouvant alors avoir avec Dieu des relations ouvertes et empreintes d'amour. Voilà ce que c'est que trouver grâce. C'est véritablement être là, libre avec Dieu, pouvoir, et je n'oublie pas Jésus-Christ, bien sûr, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est devant nous. Eh bien, et c'est à travers Jésus-Christ que nous allons au Père et que nous connaissons le Père, mais avoir des relations ouvertes, empreintes d'amour avec Jésus-Christ. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Fais-moi connaître tes voies, dit Moïse, c'est-à-dire, veuille m'instruire de tes intentions, et surtout, veuille me révéler comment tu entends poursuivre les marches de ce peuple dans le désert. Et enfin, fais-moi connaître dans quelle nouvelle situation je vais me trouver placé. À ton égard, moi Moïse, à ton égard, Seigneur, dans quelle nouvelle situation, puisque tu ne viens pas, puisque tu as décidé de ne plus nous accompagner, d'envoyer quelqu'un, un ange, un messager, quelqu'un qui te représente, mais de très loin. Alors, quelle va être ma situation, moi, de médiateur, à ton égard? Si tu me révèles tes intentions, fais-moi connaître tes voies. Si tu me révèles tes intentions, alors je trouverai encore grâce à tes yeux. Si tu me révèles tes intentions, si tu ne me révèles rien, si tu ne me fais pas connaître tes voies, eh bien, alors je ne pourrai plus trouver grâce. Il faut que tu me montres d'avance tes voies. Alors là, je vais pouvoir trouver grâce. C'est admirable, cette prière de Moïse. Il sait où il va aller dans sa prière, mais il va d'une manière progressive. Et il est véritablement inspiré, cet homme, pour parler à Dieu avec une certaine audace, mais avec crainte toujours, grand respect et crainte. Et il parle librement. Il faut que Dieu me fasse connaître tes intentions, pour que je puisse à nouveau trouver grâce. Parce que si je connais tes intentions, si tu me les révèles, alors je continuerai à me voir admis comme un ami auprès de toi. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? Moïse veut aussi faire complètement disparaître les séquelles de la colère divine soulevée par l'affaire du veau d'or. Voyez-vous, là, il vient d'obtenir vraiment un exaucement extraordinaire. L'Éternel rétablit sa présence. Il va marcher. Bon. Mais il continue de plaider la chose. Il continue de plaider après satisfaction reçue, car il va encore aller plus loin. Il veut faire disparaître les séquelles de la colère divine soulevée par l'affaire du veau d'or. Lui, personnellement, Moïse, il jouit de la grâce de Dieu. Comme je l'ai remarqué hier, il n'était pas, lui, dans l'affaire du veau d'or. Il était à ce moment-là en présence de Dieu. Alors, il ne trempait pas dans l'affaire du veau d'or. Mais ici, il s'identifie avec le peuple coupable et veut trouver pleinement grâce pour ce peuple. Et il sera manifeste, dit Moïse, que le peuple a trouvé grâce quand Dieu aura rétabli sa demeure au milieu de lui et que, comme précédemment, ce peuple sera un peuple mis à part, distingué des autres. Il ne s'agit pas là d'une pointe orgueilleuse, bien entendu, c'est absolument exclu, n'est-ce pas ? Les profanes qui lisent ça, ils voient toujours l'orgueil d'Israël. C'est lamentable, il ne faut pas écouter ce que disent des profanes. Mais il ne s'agit pas ici de cela. Il est certain que lorsque le Seigneur est avec un peuple qu'il s'est donné, qu'il s'est choisi, ce peuple est mis à part des autres peuples. Ce peuple est mis à part des autres hommes. Il est absolument mis à part. Alors, il est distingué des autres. Et c'est ce que Moïse sait si bien qu'il le rappelle ici. Seigneur, il faut que ton peuple soit vraiment un peuple distingué des autres, mis à part des autres, parce que tu es là. Parce que tu es en son milieu, parce que tu le prends pour ton peuple. Alors il est distingué des autres. Et on dira, ah ben oui, mais l'Église, exactement pareil. À telle enseigne que l'apôtre Pierre, et c'est bien tout de même, l'apôtre Pierre, c'est tout de même bien du Nouveau Testament, ça. C'est tout de même bien pour l'Église. Eh bien, l'apôtre Pierre dit, vous êtes, en s'adressant à l'Église, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il reprend les termes de ce qui avait été dit à Israël. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes donc, vous aussi, l'Église, vous ne pouvez pas manquer d'être un peuple distingué des autres hommes. Je ne dis pas des autres peuples, mais des autres hommes. Distingué du monde, si vous voulez. Distingué des autres. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vient susciter en nous l'orgueil. Il ne s'agit pas de cela, je le répète. Mais il s'agit d'une réalité qui doit être présente et maintenue dans l'Église. Ce peuple est distingué des autres peuples, des autres hommes. C'est ça l'Église. Il y a séparation. Ils ne sont plus du monde comme moi je ne suis pas du monde, a dit le Seigneur Jésus. Il ne peut pas en être autrement. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est à l'Église que cela est dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, c'est-à-dire les vertus de Jésus. Vous vous rendez compte d'annoncer les vertus quand soi-même on laisse venir dans son cœur ou dans la pratique dans sa vie, dans sa conduite, dans son comportement, on laisse venir des choses qui sont absolument incompatible avec les vertus du Seigneur. Comment voulez-vous annoncer les vertus du Seigneur si vous, vous avez les tares du monde? Si vous laissez les tares du monde revenir, comment annoncer les vertus du Seigneur? Comment faire? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais rien qu'avec ça, l'Église devrait aujourd'hui s'humilier et dire « Seigneur, Seigneur, nous allons reprendre la route, la bonne route, et nous allons fermer nos oreilles à tous les bruits de l'extérieur, à toutes les invites, à tout ce qui nous sollicite pour que nous établissions un no man's land avec le monde, des chemins latéraux de communication avec le monde, afin que le monde vienne un petit peu, que nous nous allions un petit peu avec le monde aussi. Alors, dans ce no man's land, on va se serrer la main, on va se connaître, on va s'échanger, échanger des choses, échanger avec le monde. Oh, corruption des corruptions. C'est exactement ça, l'affaire du veau d'or. Nous arrivons au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » C'est donc une réaffirmation ce que l'Éternel maintenant rétablit, non seulement Moïse, mais son peuple dans l'Alliance. Et ce rétablissement va se continuer dans la suite. Lisons au verset 18, de 18 à 23, à la fin du chapitre. « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Fais-moi voir ta gloire. Alors là, on pourrait presque dire, Moïse ne se connaît plus tellement. Le Seigneur l'a béni, l'exauce tellement, il sent que le Seigneur vient à lui. Il le prie, et le Seigneur aussitôt répond. Alors, il ne manque plus qu'une seule chose à demander, c'est cela. Fais-moi voir ta gloire, autrement dit, ta personne. La gloire de Dieu est la personne de Dieu. Devant cette attitude du Seigneur qui consent à toutes ses prières, Moïse pousse l'audace jusqu'à formuler cette demande de voir la gloire de Dieu. Et Moïse a vraiment soif de Dieu, comme dit le psaume. Il a vraiment soif de Dieu. Moïse n'était pourtant pas privé des signes et des manifestations même de la personne de Dieu. Il y a eu la colonne de nuée ou la colonne de feu, la représentation de Dieu sur la montagne, avec même les 70 anciens et Aaron sur la montagne. Il y avait là tout un pavé de saphir et la gloire de l'Éternel était là. Il y a eu les entretiens bouche à bouche, ce dont nous parle le livre des Nombres, chapitre 12, je l'ai déjà lu, je crois, mais enfin, une fois de plus, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, c'est-à-dire sans interposer des voiles, des choses qui atténuent, qui filtrent, si vous voulez, la vue. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc, il n'avait pas été privé de ces manifestations de la présence de Dieu, mais Moïse ressentait bien l'impérieux désir d'être en la présence de Dieu, alors cette fois-ci tout à fait réelle. Une représentation de Dieu, c'était magnifique, cette représentation qui lui parlait bouche à bouche, une représentation de Dieu. Mais cette fois-ci, il veut une présence tout à fait réelle. C'était, vous savez, une grande audace. Il fallait que cet homme eût grandi vraiment par la foi et l'amour de son peuple pour pouvoir formuler une telle chose. C'est, si vous voulez, sous une autre forme, ce que Philippe demandera à Jésus. Mais alors là, évidemment, Jésus, c'est bien l'ange de l'Éternel. Mais cette fois-ci, Jésus est dans une enveloppe humaine. Et c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est là, le même ange de l'Éternel. Il est là, seulement dans une enveloppe humaine, et il est venu dans cette enveloppe humaine par abaissement. Par abaissement. C'est le Christ abaissé, mais c'est le Christ quand même. C'est l'ange de l'Éternel quand même. Et là, vous savez ce que Jésus va répondre à Philippe. Il va lui dire, Philippe, comment peux-tu demander à voir le Père? Tu veux voir le Père? Mais ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Voyez-vous? Alors cette fois-ci, la vue peut se porter sur la personne de l'ange de l'Éternel qui est Dieu, puisque c'est le nom de Dieu est en lui, et il a la divinité, peut se porter donc sur le Père. Il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père sur le plan de la divinité. Alors, le regard peut librement se porter parce que la divinité, comme je le dis, est dans l'abaissement, là, et elle est enfermée derrière le voile de cette humanité. Mais c'est là, l'ange, le même ange de l'Éternel, est là. Seulement, là, dans l'affaire de Moïse, il est certain que le voile de la chair n'était pas encore là, et l'ange de l'Éternel était donc dans la plénitude de sa gloire. Il était dans cette gloire, Jésus, la gloire que j'avais auprès de toi, pas de quand le monde fut créé, cette gloire qu'il a retrouvée maintenant, il était dans toute sa gloire à ce moment-là. Je ferai, alors le Seigneur répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. En somme, Dieu veut encore satisfaire Moïse. Voyez, il ne veut vraiment pas interposer un refus. Ah, le Seigneur ne veut pas. L'Esprit a conduit tout cela. Et Dieu va donc, on dirait que Dieu, en somme, recule devant les prétentions de Moïse l'ennemi. Seulement, ce sont des prétentions inspirées. Vraiment, c'est un cœur qui est là, tout flambant de l'Esprit, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'il dit a la marque merveilleuse de la vérité et de la sainteté. Alors, Dieu cède. Alors, je ferai passer devant toi, entendu, il ne dit pas ma gloire, mais il dit ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. En somme, Dieu accorde à Moïse le maximum possible, compte tenu de ce qu'un homme peut supporter sur la terre. Moïse est encore dans l'enveloppe de l'homme. Toute ma bonté. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ce que Moïse a demandé et désire. Dieu lui accorde donc un exaucement qui va loin dans le sens de la demande et qui va bien être une approche et un passage de l'Éternel tout près de lui, mais il ne laissera pas apercevoir sa face. C'est-à-dire qu'il ne se laissera apercevoir que dans la mesure où cela est compatible avec la condition de l'homme, et il se montrera sous l'action d'une proclamation de sa bonté. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Au point du côté de la vue, il donnera quelque chose, mais il va surtout parler en passant près de Moïse et parler lui-même. Lui-même. L'Éternel vient là, est là, l'Éternel, l'ange de l'Éternel est là et va parler là lui-même. La bonté est ce qui forme le fond des relations de Dieu avec les hommes. C'est pourquoi je ferai passer toute ma bonté devant toi. Tu ne pourras pas voir ma face. Alors Dieu indique des dispositions qu'il va prendre pour protéger Moïse d'une mort certaine. Si tu me voyais face à face, Moïse, tout Moïse que tu es maintenant, tu es un homme issu de l'humanité de la chute, et tu mourrais. Personne ne peut me voir et vivre. Alors, Dieu indique des dispositions qu'il va prendre, mais la vue de l'Éternel est une chose absolument insupportable pour l'homme. Cependant, il va en donner ce qu'il va pouvoir. Les anges, eux, voient la face de Dieu, et pour l'homme, il faudra attendre la résurrection en un corps céleste et spirituel pour voir Dieu. L'apôtre Jean, lui, qui connaissait bien la personne de Jésus tant que Jésus n'était pas ressuscité, l'apôtre Jean tombe comme mort à la vue du Seigneur Jésus glorifié, dans le chapitre premier de l'Apocalypse. Alors le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, là. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Je te mettrai dans un creux du rocher. C'est Dieu lui-même qui mettra Moïse dans le creux du rocher. C'est pas Moïse qui va se blottir là, à la commande de Dieu, c'est Dieu qui va le mettre. Et ce devait être un creux, une fente étroite, bien étroite. Alors, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a mis Moïse lui-même dans le creux de ce rocher. Et cela nous montre, il y a là une pensée, bien sûr, que c'est Dieu, c'est toujours Dieu, qui met l'homme qu'il cherche, sous la protection de Jésus, sous la protection de Jésus, son Fils, afin de n'être pas, pour cet homme, le feu qui dévore, sous la protection de Jésus. Et c'est Dieu qui le fait. Et pourquoi ici, nous voyons aussi, n'est-ce pas, que Jésus, que Dieu, l'Éternel, met Moïse dans le creux du rocher. Et nous avons, au sujet du creux du rocher, quelques textes à consulter, parce que de cette circonstance-là est née en Israël la pensée qu'il y a un creux de rocher ou un rocher qui présente une cache qui est là la protection que Dieu accorde à l'homme. Alors voyons ces quelques textes, et ça vient de cette circonstance-là. Prenons le psaume 31:3. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Voyez-vous, il y a en somme le rocher sur lequel aussi l'homme, le psalmiste peut désirer être placé. Il est bien là sur le rocher de Dieu, sur un point d'appui ferme. Le rocher des siècles, c'est une autre utilisation de cette image qu'est celle du rocher. Mais là, je cite particulièrement ces images qui sont empruntées au fait que Moïse a été mis dans le creux du rocher, un rocher protecteur, où je trouve mon salut. Moïse y a trouvé son salut, si vous voulez, en ce sens qu'il n'a pas été mis à mort, foudroyé par le passage de l'Éternel. Et puis, le psaume 71, 3, « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer, car tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Un rocher qui me serve d'asile. Et pourquoi le psalmiste dit-il ça? Parce que Dieu a résolu de le sauver. Il faut donc être dans ce rocher. Il faut être dans ce rocher protecteur, dans ce creux du rocher. Dans le psaume 94-22. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Ma retraite, mon refuge, le rocher de mon refuge. Le rocher dans lequel je n'ai plus rien à craindre. L'Éternel est là alors pour moi, le Dieu qui passe avec toute sa bonté, fait passer sa bonté, mais le Seigneur ne me foudroie pas. Vous savez qu'en Israël, ils savaient très bien que voir Dieu, c'était mourir. Et puis, dans Ésaïe 17, verset 10, « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agrément. Tu as planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. » Mais ça mériterait d'être prêché dans l'Église, vous savez. Ça mériterait d'être prêché aujourd'hui, ça. Tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge, ce rocher protecteur dans lequel il faut que tu restes. Ce creux du rocher, Jésus-Christ, qui est ton rocher protecteur. Alors tu as voulu faire des plantations d'agrément, eh oui. Est-ce qu'on fait aussi, nous, des plantations d'agrément, n'est-ce pas? Et puis, tu as planté des ceps étrangers, des ceps qui ne provenaient pas du vrai cep. C'est un peu comme le feu étranger, ça, de Nadab et Abihu. Tu as pris des ceps étrangers, alors tu as voulu faire toi-même ta plantation, tu as voulu avoir ta vigne toi-même, ta vigne. Oui, ben tu en as fait une, oui, tu as mis une haie aussi, oui, pour la protéger. Et bientôt, tu as vu les fleurs venir. Mais la récolte, rien. La récolte a fui au moment où tu croyais en jouir, au moment où tu croyais l'avoir, la récolte, rien du tout. Aucun fruit, pas de fruit, mes amis. Oh, je ne sais pas moi, la parole de Dieu est pourtant claire. Elle nous parle, vous voyez, n'est-ce pas, sans embâche, et la douleur est sans remède. Quand on a fait ces choses, qu'on a voulu planter soi-même, on a voulu arranger les choses soi-même, qu'on a voulu faire une église à soi-même, selon sa conception à soi, avec toutes sortes de manifestations ou d'agréments, si je puis dire, à soi, eh bien, oui, on peut arriver à avoir un semblant d'église, un semblant de vigne, mais la récolte est nulle. Absolument nul. Et comme la récolte est nulle, il y a de la douleur. Une douleur qui est sans remède. Chers amis, la fidélité. Et nous arrivons à la fin de notre chapitre. Nous parlerons simplement de ceci, tu me verras par derrière. Moïse doit donc voir l'Éternel par derrière, c'est-à-dire de dos. Dirons-nous, comme il ne l'a jamais vu, il n'a jamais vu cela. Ce n'est plus ici une représentation de l'Éternel parlant bouche à bouche, mais c'est l'Éternel lui-même. Voilà ce que la Bible nous montre. Voilà comment, n'est-ce pas, nous pouvons rendre compte de la Bible. Il y a là une mise en présence de Moïse, de toute la réalité de la personne divine, avec la seule restriction que la face de l'Éternel, notamment le regard. Dans la face, il y a le regard. Notamment le regard est soustraite à la vue de Moïse. Alors il y a là, certes, un grand mystère. Nous ne pouvons pas aller bien loin dans l'idée que nous nous faisons de la personne de Dieu. Mais attention, ceux qui s'arrêtent simplement à ceci, Dieu est esprit, en tirant la conclusion, Dieu est immatériel, c'est-à-dire que, en somme, il n'y a pas de personne de Dieu, ceux-là interprètent la Bible et ne rendent pas compte de toute la Bible. Il ne nous est pas dit que Dieu a un corps, mais il nous est dit que la personne de Dieu est localisée, elle habite, dit Paul lui-même, un lieu, une lumière inaccessible. La personne de Dieu, la personne du Père, la personne du Fils, ces personnes qui forment la Trinité sont quand même à distinguer de la personne du Saint-Esprit qui, lui, alors est purement, évidemment, immatériel. Immatériel, je ne veux pas parler de matière, bien sûr, mais je veux dire immatériel dans le sens de ceux qui disent que Dieu est immatériel parce qu'il est écrit que Dieu est esprit. C'est l'essence de Dieu, cela. Il est bien dit Jésus, que Jésus, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit, nous dit Paul. Et cependant, nous savons que Jésus a un corps. Mais bien sûr, le Seigneur est aussi au milieu de nous, il est l'esprit. C'est vrai, et c'est l'essence, il partage avec le Père l'essence divine, il est l'esprit. Par conséquent, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller ou dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, essayer, n'est-ce pas, de nous représenter d'une façon métaphysique un peu ce que pourrait être la personne de Dieu, comment, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas, nous restons sur ce que la Bible nous dit. Nous n'allons pas au-delà, mais nous ne restons pas en deçà non plus, et nous n'interprétons pas. La personne de Dieu est une personne, simplement, moi je dis, localisée. C'est-à-dire que la personne de Dieu a un lieu où elle se tient. Alors, comment est-elle? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a un temps où Dieu sera vu comme les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Jésus qui l'a dit, ça. Eh bien, pour nous, il est dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. C'est vrai. Voyons, n'est-ce pas, d'une manière obscure. Mais alors, quand nous serons ressuscités, quand nous serons, que tout sera accompli, n'est-ce pas, que nous serons avec le Seigneur, alors, nous verrons face à face. C'est dans le Nouveau Testament. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, partiellement, mais alors, à ce moment-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez, par conséquent, n'est-ce pas, que tout cela, il faut en rendre compte et il ne faut pas s'aventurer dans des interprétations qui sentent d'ailleurs le rationalisme. Quand quelqu'un dit « le Seigneur est esprit », ça veut dire « il n'y a rien, il n'y a rien de, absolument rien de visible, rien qui puisse se voir, pas de la personne de Dieu, rien, rien, rien. » Eh bien, ça, c'est pas vrai. Par conséquent, actuellement, il y a un grand mystère. Nous voyons d'une manière obscure. Alors là, il y a un voile. Mais nous savons que nous verrons face à face, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est dit. Pas moi qui l'invente, c'est écrit. Nous verrons face à face. Dieu sera pour toujours avec les hommes. Voilà. Et par conséquent, cette pensée-là, moi je la garde précieusement telle qu'elle est dite, sans rien changer, absolument rien. Notre Bible est un langage que Dieu nous tient par amour pour nous et pour notre salut. Amen.